Bonjour et bienvenue dans Quartier Direct, l'émission de Mediapart et du Bondi Blog. Après la pauvreté, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une autre inégalité, celle de l'éducation. En cette fin d'année, ils sont plusieurs centaines de milliers à passer leurs examens de fin d'année, le brevet, le baccalauréat, le BTS. Partout en France, ce sont les mêmes examens que ces étudiants passent, mais sont-ce vraiment les mêmes examens? À Bondy ou à Neuilly, à Bobigny ou à Paris, le baccalauréat, le brevet, le BTS ont-ils vraiment la même valeur? Pour en parler avec nous, Faïza Zerwala,
bonjour.
Journaliste à Mediapart, spécialiste des questions d'éducation, que l'on connaît bien au Bondy Blog. Et puis à vos côtés, Dasha Tran, professeur d'anglais au lycée Jean Renoir de Bondy. Bonjour. Et Fabien Truong, sociologue et professeur à l'université Paris 8
bonjour.
De Saint-Denis. Bonjour. Je vous pose finalement à tous les deux la question que j'ai posée en introduction. Le bac à Bondy, est-ce que ça vaut vraiment la même chose qu'à Neuilly?
Vaste sujet.
C'est pour ça qu'on va y consacrer des missions.
Je vais faire une réponse de sociologue. Oui et non. Ça dépend de qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'il y a derrière la question. Non, au sens où évidemment, quand on a une, ça c'est les effets de la ségrégation urbaine, de la non-mixité sociale, du fait qu'il y a une accumulation de tout un tas de caractéristiques socio-scolaires qui font que voilà, dans les quartiers populaires, on a une concentration d'élèves qui ont plus de difficultés que scolaires, quoi, en comparaison que dans d'autres endroits. Donc de ce point de vue-là, ce serait très naïf et très naïf de dire que tous les lycées sont les mêmes, que les élèves sont les mêmes. Non, c'est pas vrai. Et donc il y a des difficultés qui sont concentrées, qui font que c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, du coup, ça appelle toutes ces questions-là, se demander quelles sont ces difficultés, voilà, et est-ce que le bac y remédie ou pas, etc. Et puis de l'autre côté, on peut aussi répondre oui, au sens où déjà, quand on regarde qu'est-ce que fait le bac, par exemple, hein, en période de bac, qu'est-ce que fait le bac ou les diplômes d'une manière générale à ces élèves de milieu populaire, bah, c'est déjà, il y a un effet de légitimité, de légitimation. C'est-à-dire que avoir le bac, avoir le brevet, avoir un diplôme à l'université ou en STS, c'est des certificats de conformité, de légitimité. Ça vous rassure aussi dans le fait que vous valez autant que les autres. Et dans une période où ces populations sont très stigmatisées, ça compte beaucoup. Donc de ce point de vue-là, ça a cette valeur-là qui est une vraie valeur et pas, qui n'est pas qu'une valeur symbolique, hein, parce qu'il faut aussi se battre pour avoir ces diplômes-là. Et puis, on pourrait se dire aussi que non, si on suit justement les jeunes longtemps, en fait, dans leur trajectoire sociale et scolaire, on voit bien que, contrairement parfois à ce qu'on dit de manière un petit peu hâtivement, disons, voilà, un bac banlieue ou un diplôme banlieue, que voilà, ces jeunes trouvent leur place dans la société française, sur le marché du travail. Alors, les chemins sont parfois plus longs, plus compliqués, un peu, voilà. Mais ces diplômes aussi, ils amènent en fait à des postes, à des reconnaissances, à des travaux. Donc ils ont aussi cette valeur-là. Donc voilà, je crois qu'on peut dire oui. Hein.
On va en parler de tout ça. On va un peu développer ce que vous avez introduit. Dasha Tran, même question. Est-ce que le bac que vous avez préparé avec vos élèves à Jean Renoir à Bondy, vous avez l'impression que finalement il était peut-être plus dur à préparer qu'ailleurs?
Alors, pour juste arriver sur le bac, théoriquement, le bac Bondy, il a la même valeur que le bac Neuilly, parce que c'est des copies anonymées, normalement, c'est à la même valeur. Après, les diplômes d'université ou les conditions de travail pour mener au bac, clairement, sont pas les mêmes. Mais pour l'instant, théoriquement, le bac est le même. Si j'ai des élèves là qui vont nous dire qu'ils ont eu 17, 18 en philo, ils l'ont pas volé, parce que les gens, ils les connaissent pas, ils savent pas qu'ils viennent de Bondy, théoriquement, pour le bac d'aujourd'hui. Après, avec la réforme en cours, le bac devient local. Il y a une forte proportion de la note qui devient une note de contrôle continu, c'est-à-dire une note des contrôles pendant l'année. Et là, à partir du prochain bac, à partir de l'année prochaine pour le bac 2021 après, là, on pourra même plus dire que le bac Bondy et le bac Neuilly sera le même. Mais juste sur cette question du bac, pour l'instant, théoriquement, c'est la même chose.
Mais justement, vous parlez de cette réforme dont on a, sur laquelle on a énormément discuté ces derniers mois. L'une des craintes récurrentes pour les professeurs, c'est que introduire des spécialités, forcément, ça va créer des inégalités parce que certaines spécialités vont être disponibles dans certains établissements et d'autres ne pourront pas les proposer. Donc, on craint que cela ne crée un déséquilibre. Et on voit aussi que tout va dépendre des demandes. Ça va être difficile pour un élève qui veut absolument suivre une spécialité de demander une dérogation pour aller dans un autre établissement. Et les stratégies scolaires vont aussi être de plus en plus cruciales. Est-ce que cette réforme, c'est une réforme d'initié? Et à votre avis, est-ce qu'elle va réussir à accroître l'un des défauts de l'école française, à savoir qu'elle est ultra inégalitaire?
Ben, ça risque d'être de pire en pire, parce qu'en fait, c'est une réforme qui est faite pour que l'éducation coûte moins cher en général, et c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Par exemple, sur le système scolaire américain, on est aussi sur une espèce de scolarité à la carte, où vous voulez faire de la photographie, théoriquement vous pouvez, vous voulez faire du jardinage, de la musique, vous pouvez. Et ça crée, et ça renforce des inégalités. Je vais juste rester sur le bac français, du coup. Vous n'avez pas la même offre d'un lycée à un autre. Je vais prendre le cas très concret.
Par exemple, vous, votre lycée, à quelle sauce va-t-il être mangé?
Très concrètement, là, par exemple, il y avait, je vais citer le cas d'un élève qui n'avait pas des super bonnes notes en maths en seconde, et qui, à l'époque, vu qu'on avait encore S, E, S et L, avait fait le choix de refaire une seconde. Ce qui est quand même un choix difficile à faire.
Pour prétendre à la filière de son
Pour se dire, voilà, ça n'a pas marché cette année-là pour X raisons. L'année prochaine, je vais y arriver parce que ces problèmes-là ont été résolus. Sauf que lui, là, il se retrouve sans S parce que ça n'existe plus.
Alors, donc, faut dire que, pour ceux qui n'auraient pas suivi avec attention, que dans le cadre de cette réforme, il n'y a plus les séries littéraires, scientifiques, économiques et sociales.
Chaque élève compose un peu son trio de spécialités.
Voilà, il y a un tronc commun de sept spécialités, enfin sept disciplines auxquelles il faut ajouter
des
spécialités. Voilà. Et par exemple, les mathématiques deviennent une spécialité.
Donc, voilà, à partir de la première. Oui.
Tous les élèves ne suivront pas forcément des cours de maths en première et terminale.
Pour nous, c'est très problématique, parce que dans la vie, dans votre vraie vie, faire des calculs, faire des comptes, ce ne sera pas une option, en fait. Mais du coup, pour reprendre le cas très concret de cet élève, lui, il savait, en tout cas, quelque chose qui l'intéresse, c'est l'informatique. Il y a beaucoup d'élèves à 14 ans, de jeunes à 14 ans, ils ne savent pas. Lui, il sait, voilà, c'est ça qui m'intéresse, et donc il fallait des maths. Il faut des maths pour ça. Et donc là, il refait sa seconde, il a des meilleurs résultats en maths, et normalement, là, il y a une spécialité qui arrive, qui est sciences numériques et informatiques. Numérique, pardon, et sciences informatiques. Et cette carte-là, on ne l'aura pas. On ne pourra pas jouer cette carte-là dans mon lycée l'année prochaine.
Sans compter que les enseignants n'existent pas encore, sachant que le CAPES d'informatique est créé
en 2020.
Donc
mais là, pour
on
lui,
est quand même
concrètement,
déjà
il se retrouve coincé, comme beaucoup d'autres jeunes, dans un environnement social et culturel et scolaire de pauvres où on n'a pas les moyens de les former sur des choses qui sont quand même pas absurdes. Enfin, oui, on veut qu'ils puissent faire du numérique, on veut que les élèves puissent faire de l'informatique, mais là, il ne pourra pas et il n'y aura pas de dérogation possible.
Et avec la formule actuelle, il aurait pu faire de l'informatique à Jean Renoir, ou alors il aurait quand même dû...
Alors, il aurait pu faire son bac S et ensuite faire une école qui le mène vers certains métiers qui lui plaisent, comme ça aurait été possible pour n'importe qui avant qui voulait se diriger vers l'informatique. Sauf que là, tous ces élèves qui veulent faire de l'informatique chez nous, ben, tant pis pour vous.
Et est-ce qu'il y a un aspect social, territorial dans cette forme d'inégalité? Est-ce que vous êtes moins bien lotis que des lycées dans d'autres
forcément.
Départements
Forcément. Parce que nous, par exemple, l'année prochaine, on n'aura pas littérature, langue et culture de l'Antiquité, on n'aura pas sciences de l'ingénieur, on n'aura pas numérique, sciences informatiques, et pour les arts, on aura uniquement les arts plastiques.
Alors que littérature et langue et culture de l'Antiquité, il y a un biais social dans cette spécialité.
C'est une façon de combler un peu les manques en culture générale, de pallier certains. C'est un peu comme si c'était la même chaîne de restaurants partout en France, mais que le menu n'était pas le même.
Voilà, il y a des gens qui ont plus de choix que d'autres.
Ouais. Ouais, puis enfin bon, il y a ça, on est du côté de l'offre, mais en fait, si on s'intéresse un petit peu à comment ça fonctionne, c'est bon, derrière ça, il y a la philosophie du choix, en fait. L'idée qu'on donne le choix aux élèves et que c'est bien, etc. Alors, c'est vrai qu'en théorie, c'est sympa d'avoir le choix dans la vie. Par contre, en pratique, alors c'est là aussi qu'il faudra se demander comment elle va être mise en place très, très concrètement. Mais là, je parle concrètement, on a peu de réponses, hein, puisque on navigue un petit peu à vue, cette réforme, mais c'est la question de l'accompagnement, en fait, pendant le choix. Alors, le gouvernement dit qu'ils en sont conscients, qu'ils vont accompagner, etc. Sauf que on doit être sur des accompagnements très, très profonds, parce que quand on regarde, alors il suffit de regarder bon, la question du choix, on voit bien avec APB, avec Parcoursup, etc., que en gros, être instrumental par rapport à ces études, bah, c'est en fait l'environnement familial et social qui joue à fond. Alors, ça ne veut pas dire que les enfants de milieu populaire ne sont pas stratégiques. stratégiques quand ils choisissent. Ils font des choix tout à fait stratégiques, mais qui renvoient en fait à leur position sociale, à leur perception des choses à l'instant où ils choisissent. Mais ils choisissent vraiment et avec l'idée de faire ce qui leur paraît être le meilleur. Et plus on accentue en fait cette dimension de voilà sous couvert de liberté. Voilà, le choix, c'est la liberté. Plus d'une certaine manière, et ça on le sait, hein, toutes les enquêtes sociologiques sont très très claires là-dessus, plus on accentue, en fait, on laisse un petit peu la machine sociale jouer tout seul. Donc ça pose vraiment, du coup, la question de l'accompagnement, en fait, concret sur le à côté ou le en dehors des études.
C'est-à-dire qu'on donne le choix, mais on ne donne pas les armes pour faire le choix.
Oui, alors je vais vous donner un exemple très concret, par exemple. J'avais fait dans une de mes enquêtes, je m'étais intéressé, donc à l'époque c'était APB, sur tout le pool d'un lycée, donc de Seine-Saint-Denis, aux critères en fait de choix des étudiants. Puis à un moment donné, il y a des choix qui, pour le dire vite, ils étaient très cohérents, consistants, mais j'en comprenais pas la logique. Et en fait, j'ai compris la logique de d'une façon d'ordonner les choses. En fait, la logique c'était Paris-Banlieue. Et il y avait l'idée pour les élèves, en fait, c'était peu importe la formation ou la discipline, mais il y avait cette idée de vouloir quitter en fait sa banlieue.
Quel que soit le.
Oui, en fait, la logique numéro un, c'était aller à Paris, mais parce que ça renvoyait à un besoin social, symbolique, etc. Et il y a une logique très très forte, sauf que du point de vue du système et du point de vue de la rationalité entre guillemets instrumentale par rapport au système, il y avait des choix qui devenaient aberrants et qui étaient en fait, du coup, pénalisant en fait pour ces élèves, quand bien même ça. Et là, on voit bien que ça renvoie à une logique sociale, ça renvoie à la question de la stigmatisation sociale.
Justement, vous avez aussi là réalisé un documentaire avec Mathieu Va-de-Pied qui s'appelle Les Défricheurs et qui sera diffusé le 1er juillet à 1h30. Mais ceux qui n'aiment pas sur France 3, pardon, et ceux qui ne veulent pas veiller tard pourront le regarder en replay tout le mois de juillet. Donc ce documentaire, vous suivez une dizaine de jeunes qui s'interrogent un peu sur leur avenir, des jeunes de quartiers populaires. Déjà, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce travail? Et par ailleurs, il y a une scène où il y a un des jeunes qui explique que finalement le système est bien fait et que si lui n'arrive pas à aller dans un bon établissement, c'est parce qu'il n'a pas assez travaillé. Est-ce que, justement, les jeunes sont conscients de ces difficultés structurelles du système? Et par ailleurs, est-ce qu'ils ont conscience que parfois ils pratiquent l'autocensure dans leur choix?
Oui, alors déjà vraiment pour revenir sur la question du choix, donc dans ce film-là, notamment on suit pendant 2 ans et demi trois jeunes qui sont Brandon, Faïda et Amine, et on voit très bien en 2 ans et demi à quel point les choses évoluent. Et donc du coup, il y a cette idée aussi qui est importante. Plus tôt on a une logique un peu de choix instrumentaux, plus tôt aussi on risque, alors je dis on risque parce qu'il faut voir comment cette réforme va être appliquée concrètement et localement aussi, mais on risque en fait de graver dans le marbre en fait des choix qui sont très circonstanciés, qui sont très, et ça c'est une vraie difficulté. Et dans ce film là, du début du film jusqu'à la fin du film, sans révéler ce qui se joue, mais bon, en gros,
avec les témoignages aussi d'anciens élèves, voilà, qui reviennent leur expliquer comment ils ont fait tel ou tel choix. Et à un moment, sans déflorer l'intégralité du film, il y a la question de HEC qui se pose et il y a un débat qui se noue entre les jeunes qui se disent mais pourquoi moi je ne pourrais pas aller à HEC et alors qu'un autre l'a évacué d'office.
Et on voit que quand ils ont 17-18 ans, Brandon, Faïda et Amine, ils doivent faire un choix d'ailleurs, ils doivent s'orienter, ils émettent un choix très très clair. Et 2 ans et demi après, on est plus du tout, on est ailleurs. On est ailleurs parce qu'il s'est passé, beaucoup de choses, et il s'est passé aussi. Alors, vous disiez la question de, on voit aussi la force du système aussi, où très très vite on intègre tout un tas de contraintes et d'illégitimité. Ça c'est pas nouveau. C'est Pierre Bourdieu qui explique ça très bien avec la violence symbolique. Et on voit cette force aussi de, c'est-à-dire que. Et on peut se poser la question que plus tôt on organise les choses sur le mode du choix, il y a aussi une sorte de culpabilité qui va avec. C'est parce que en fait, qu'est-ce qui se joue? C'est-à-dire l'idée, j'avais le choix, donc j'avais des possibles. je me suis trompé puisque j'ai fait un mauvais choix et donc c'est de ma faute. Et donc, alors encore une fois, je ne fais pas de procès d'intention, mais on voit bien qu'en tout cas, à mettre le choix comme ça très en avant, ça en fait responsabilise très très tôt des jeunes qui sont souvent pas en état en fait dans cette position-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, ça nécessite un accompagnement, je dirais, socio-pédagogique très très fort et probablement beaucoup plus intense que ce qu'on peut lire en fait dans ces, voilà, les modules d'accompagnement. Parce que ça nécessite aussi une formation, de la part des enseignants, de la part des adultes en fait qui entourent tous ces jeunes. Et cette formation, elle, pour l'instant, n'existe pas.
Derrière la question du choix, finalement, dont vous parlez, la question de l'orientation, si on prend une classe d'âge, une classe de 6e à Bondy et une classe de 6e ailleurs, on se rend compte qu'il y en a moins, j'imagine que c'est chiffré, il y en a moins qui arrivent au bac, donc déjà le bac c'est une sorte de perspective qui est moins évidente, et on a beaucoup de ceux qui arrivent au bac qui vont dans les filières professionnelles. Est-ce que finalement il n'y a pas aussi un enjeu sur l'orientation où le bac c'est moins évident et c'est moins naturel pour un jeune de Bondy qu'ailleurs?
Ouais, ouais. Puis derrière cette question de l'orientation, je pense qu'il y a vraiment la question de la transmission en fait. Et c'est vraiment l'objet du film des défricheurs, c'est-à-dire que on voit des jeunes, des anciens jeunes. Alors on est toujours le jeune d'un autre. Qu'est-ce qu'ils sont jeunes, on ne sait plus trop, mais qui étaient en fait à la place de ces lycéens il y a 2, 3, 4, pour certains il y a plus longtemps, qui reviennent témoigner. Qui en témoignant en fait disent voilà, moi j'étais à ta place ici il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, je pensais ça et j'ai vécu ça et voilà ce qui m'est arrivé. Et en fait nos trois personnages principaux, hein, Brandon, Amine et Faïda, aussi font ce chemin là c'est-à-dire qu'ils vont revenir à la fin du film au lycée. Et on voit dans cette transmission que justement et c'était un peu le moteur du film au départ, c'est on a vu à quel point ça ouvrait les choses en fait, le fait d'avoir cette incarnation en fait, parce que quand on parle de choix aussi, on parle de rationalité, d'instrumentalisation, mais très souvent aussi c'est très affectif, c'est très
émotionnel. Il y a la notion de modèle aussi, de rôle modèle.
La notion de modèle, exactement, et de pouvoir se dire que ah oui, ce chemin c'est possible, enfin aussi quelque chose qui est très important, le droit à l'erreur. C'est-à-dire quand vous avez des jeunes qui vous ressemblent, qui sont un peu passés par les mêmes chemins, qui vous disent voilà, en fait, tu vois, j'ai fait ce choix-là, c'était entre guillemets un mauvais choix, mais je m'en suis rendu compte, et puis j'ai rebondi, et puis. Et c'est vrai que le droit à l'erreur aussi, c'est un vrai sujet dans le système éducatif français. Parce que
les passerelles ne sont pas nombreuses. Les
passerelles ne sont pas nombreuses. On conçoit quand même très généralement l'erreur comme une sanction. Hein, on a un système qui note beaucoup.
C'est ce que vous disiez, Dacha, sur l'élève qui doit redoubler finalement, refaire une classe pour réussir ce qu'il veut faire, pour faire le parcours qu'il veut faire.
Là, par exemple, c'est terminé. Le fait de vouloir se reconvertir, de se dire par exemple, ça, j'ai essayé, finalement, c'est pas ça. C'est terminé.
Et justement, l'accompagnement, il y a une figure dans les quartiers populaires qui est un peu contestée, qui est celle de la conseillère d'orientation. Avec une sur-orientation dans la voie professionnelle, par exemple, pour les garçons, beaucoup, parce qu'on sait que c'est très genré. Est-ce que la réforme va rendre... est-ce que c'est pas un paradoxe plutôt que cette réforme, on ait besoin d'accompagnement très, très serré, comme vous l'avez expliqué, mais dans le même temps, les postes disparaissent et les CIO, donc les centres d'orientation, vont fermer. Est-ce que c'est un besoin que vos élèves
évidemment,
vous témoignent ?
Là, par exemple, on part sur un nouveau bac avec énormément de zones d'ombre où on ne sait pas plein de choses. Et donc, on va avoir beaucoup d'élèves qui vont avoir des questions totalement légitimes et nous, on n'a pas encore les réponses.
Par exemple, l'articulation entre, par exemple, si je prends telle et telle combinaison, qu'est-ce que je vais pouvoir faire après ?
Par exemple, j'aimerais faire ce métier. Est-ce que je dois prendre ça, ça, ça ? Ah, mais mon lycée, il ne l'a pas ? Est-ce que je peux partir ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? C'est plein de questions qui sont très complexes et vu que... Les conseillers d'orientation, comme nous, en fait, c'est toujours une logique de faire plus avec moins, de gérer des milliers d'élèves pour elles, pas pour nous, et de gérer donc les questions de tous ces élèves-là. Elles essayent de faire des réunions avec nous, par exemple, pour informer les parents. Mais il y a eu des volontés, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des mails qui avaient fuité de recteurs, je crois, qui expliquaient que le moins de réunions possible, le mieux. Qu'il ne fallait pas que les professeurs, et surtout... les personnes qui ont un peu plus de clés que nous puissent parler aux parents. Et c'est là que je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'autocensure, la censure du système. J'ai une collègue, par exemple, qui apporte sa pierre à l'édifice de déconstruire certaines choses et elle fait des sorties d'observation sociologique avec ses élèves et elle s'est concentrée sur la ligne 2. pour leur montrer le triangle d'or d'un côté et la goutte d'or de l'autre.
Donc la ligne 2 qui traverse Paris de bout en bout, des quartiers les plus favorisés aux plus défavorisés.
Et donc les élèves se sont bien rendus compte que, par exemple, quand on se promène dans les quartiers chics et que les gens dans les boutiques ferment les boutiques quand on passe et nous font signe clairement de la main que nous, on rentre pas, alors que clairement, on est une sortie scolaire. On est un groupe de jeunes avec des adultes. Et donc les élèves intègrent le message. C'est pas juste nous, c'est pas notre imagination, c'est pas nous qui croyons que les élèves de banlieue, que les jeunes de banlieue, on est mal vus, on n'est pas acceptés. Non, c'est très clair quand on fait le tour de...
Là-bas, c'est pas pour moi, quoi.
C'est pas... Voilà, le message qu'ils intègrent, c'est que, ah, ils veulent pas que je sois là. Et c'est pour aussi ça qu'on fait des sorties comme ça, pour leur dire, non, vous êtes chez vous ici, vous allez où vous voulez, vous faites les études que vous voulez, on va se débrouiller, on va faire comme on peut, on va bricoler. Clairement, parce que justement, les chemins sont pas toujours tracés, donc on va un peu se battre avec les éléments, mais on va essayer de faire en sorte que t'ailles où tu veux, parce qu'il y a pas de raison.
On a vu à travers vos explications l'un et l'autre qu'atteindre le bac, c'était déjà une forme de difficulté, qu'il y avait déjà une forme d'inégalité dans l'accession au bac. Dans la préparation au bac, maintenant, quand on est un élève à Jean Renoir, on a les mêmes programmes que partout en France. On a des professeurs qui sont aussi qualifiés, qui ont les mêmes diplômes, qui ont passé les mêmes concours. Est-ce qu'on prépare le bac de la même façon qu'ailleurs ?
Non, parce qu'en fait, je vais reprendre la formule qu'une collègue m'avait donnée. Elle m'avait expliqué que voilà, le milieu dont on vient impacte la structure de l'esprit et la façon dont on va s'exprimer. Plusieurs collègues, par exemple, on n'a pas forcément grandi à Bondy. Il y en a qui ont grandi à la campagne, il y en a qui ont grandi... On avait, par exemple, la possibilité de respirer. Il y avait un lieu dans là où on vivait, c'était partagé. Il y avait des espaces de nature, des espaces de repos, on pouvait respirer. Il y avait des moments de pause. C'était possible. Un élève qui prépare son bac à Bondy, par exemple, il peut pas se dire « Oh là là, j'aimerais bien faire une petite balade dans les champs ou en forêt pour aller voir un ruisseau, me mettre les pieds dans l'eau. » C'est pas possible. Il n'y a pas de... Dans la structure même de là où on vit, il n'y a pas ce moment, ce temps de repos. On n'est jamais en repos. Et quand on... Dans votre structure, dans votre esprit, par exemple, quand on va vous faire un texte, vous avez un personnage qui se promène le long d'un ruisseau, on a des gamins, il n'y a pas d'image qui leur vient en tête quand on leur parle d'un petit ruisseau, en fait. Et donc, quand on prépare un texte, quand on prépare, par exemple, un bac, on ne part pas sur le même pied d'égalité, parce qu'eux, il y a plein de paysages qui ne sont pas nécessairement à leur portée, juste ça, en fait.
Et vous l'avez vu, ça, lorsque vous enseignez des établissements en Seine-Saint-Denis, principalement ?
Oui, alors bon, là, ça touche la question du rapport à la nature, qui est presque
un vaste sujet
anthropologique.
À part entière.
Oui, mais là où il y a une vraie différence, en fait, sur est-ce qu'on prépare le bac de la même façon ou pas, il y a une dimension qui échappe peut-être souvent aux personnes qui sont un petit peu de l'extérieur. Il y a une dimension très très collective en fait, dans la préparation au bac dans les lycées ou dans les établissements de milieu populaire, parce que en fait la plupart des jeunes savent très très bien que leur chance, en fait, enfin, tout est au lycée. Et d'ailleurs, c'est sur la question aussi du rôle des enseignants dans les quartiers populaires, en fait, les personnes qui sont le plus sollicitées, en fait, pour dans l'accompagnement, en fait, est-ce que ça c'est un bon choix, un mauvais choix, c'est les enseignants. Donc ce qui pose
est-ce qu'il pallie le fait que les parents sont pas forcément au fait du système
scolaire ? Tout à fait,
scolaire.
Parce que les élèves savent très bien que les enseignants sont parfois le seul point d'appui, pas toujours, mais un des points d'appui les plus importants, ce qui n'est pas le cas dans d'autres milieux sociaux. Et donc, ça m'amène à dire deux choses. Déjà sur la question de l'orientation, vraiment, il faut vraiment qu'il y ait une formation, en fait, et de la pédagogie explicite sur la question de l'orientation, aussi vis-à-vis des enseignants. Et d'ailleurs, il faudrait aussi demander, poser la question aux enseignants, est-ce que les enseignants ont envie d'aider à l'orientation ou pas ? C'est une question professionnelle. Il y a beaucoup d'enseignants, en fait, qui n'ont pas envie de faire ce travail-là.
Ou peur de mal faire.
Oui, voilà,
peur
c'est de pas mal qu'on faire. Oui, mais... On veut les accompagner, on aimerait bien pouvoir les aider, mais on n'est pas formé pour
oui,
ça, on
mais
a
de
pas
fait,
de carte en main.
Ça pose cette question-là, c'est que les enseignants ne sont pas formés, mais de fait, ils le font. Et donc, et ça revient toujours à la question de la pédagogie implicite, quand on est dans ce rapport-là, ben c'est la machine sociale qui joue toute seule. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, quand j'étais enseignant, en terminale, tous les élèves venaient me demander, poser plein de questions sur les BTS, les IUT, qu'est-ce qu'il fallait choisir, carrière sociale, management, etc. Je n'avais aucune idée, parce que, et comme la plupart, et ça renvoie à la question de la sociographie de qui sont les enseignants dans les quartiers populaires, majoritairement, sont plutôt issus de milieux plutôt favorisés, ont plutôt un parcours de bon élève. Donc ils viennent avec leur trajectoire sociale et leur connaissance d'un certain monde social. Et moi, j'étais bien en peine de pouvoir répondre à ces questions-là, parce que quand j'avais 18 ans, pour moi, c'était, enfin, mes options, elles étaient pas là, elles étaient ailleurs. Et donc, j'ai dû me former un peu sur le tas. Et puis après, du coup, je me suis dit que j'allais faire de la sociologie. Mais c'est des vraies questions, cette question de la pédagogie explicite. Et je pense que là, cette philosophie du choix qui abonde dans la réforme, elle devrait poser encore beaucoup plus loin cette question-là. Et je reviens sur la question du bac collectif. Pourquoi le bac est un moment collectif ? Parce que le bac c'est plus qu'un diplôme. Parce que vous l'avez dit, avoir le bac c'est déjà quelque chose. Et c'est très ambivalent, parce que c'est à la fois être comme tout le monde, donc comme les jeunes du Triangle d'Or par exemple, mais c'est aussi par rapport à tous les copains et les copines.
De l'élite du quartier, quoi, ou de la famille parfois, et ou de la fratrie.
C'est être un intellectuel. Ouais. Et je dis ça sans.
C'est de la fierté, oui. Ouais. Le premier, celui qui a eu.
Parce que vous portez sur vos épaules un mandat collectif, vous réussissez aussi. Et d'ailleurs, moi j'invite les personnes qui s'intéressent à ces questions-là à venir assister aux résultats du bac. D'ailleurs, c'est dans le film, on a filmé ces résultats du bac. Le jour où les jeunes reçoivent leurs résultats, dans les quartiers populaires, c'est des moments de fête, c'est des moments très collectifs, c'est des moments d'effervescence. Bon, vous allez dans des lycées plus bourgeois, on va dire, c'est très silencieux, les couloirs.
C'est une formalité, quoi.
Oui, et puis d'ailleurs, les élèves n'ont même pas ce besoin de venir célébrer ce moment-là avec les autres, puisqu'ils regardent sur leur smartphone.
Oui, c'est comme ce fétichisme du diplôme.
Encadré
dans le salon familial.
C'est un rituel républicain. On parle beaucoup de... Ça reste un rituel républicain. Et pour des jeunes qui croient en l'école, en l'égalité des chances, ça représente... beaucoup. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on ne le prépare pas tout à fait de la même façon, parce qu'il y a cette dimension collective, notamment le moment des révisions. Le moment des révisions, on voit bien aussi, c'est collectif pour les enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui donnent de leurs heures, et parfois beaucoup plus que leurs heures, pour faire des révisions en plus, pour...
Donner des dernières astuces.
Bien sûr, tenir les jeunes au lycée, chance. Parce que au lycée, on a un cadre pour travailler, ce qui n'est pas toujours le cas à la maison. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas tout à fait la même préparation.
Il y a une dimension un peu plus pragmatique, un peu plus pécuniaire, c'est la question des moyens qui sont donnés. Est-ce qu'on travaille, alors j'imagine la réponse est dans la question, mais est-ce qu'on travaille avec les mêmes moyens ? Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Nous, on voit sur le terrain les 4 jeunes qui nous disent, par exemple, que pendant un an et demi, ils n'ont pas eu de prof d'anglais, puisque vous enseignez l'anglais, ils n'ont pas eu de prof d'anglais au collège.
Qu'il n'est pas possible de faire des photocopies parce qu'il y a un quota, on a parlé aussi de l'état des établissements, bon, ça dépend de la région, les lycées par exemple, mais quand vous travaillez dans une salle où le chauffage ne fonctionne pas, il est difficile de croire que l'État investit autant pour vous
que
pour
les autres. La situation est parfois tellement catastrophique à ce niveau-là, au niveau des infrastructures, que je ne sais pas si vous avez entendu l'annonce d'avoir un drapeau français, un drapeau européen dans cette place. Pour nous, ça a été vécu comme un crachat à la figure, en fait.
Concrètement, c'est quoi vos difficultés en termes de moyens ?
En termes de moyens, moi, par exemple, on est en train de passer une réforme où les élèves pourraient être 35 par classe. Moi, à 30, cette année, avec une de mes classes, on ne respirait pas. Parce que les salles de classe, elles vont pas grandir au fur et à mesure que les réformes passent. On a de moins en moins de places dans nos classes. De fait, il y a de plus en plus d'élèves. Le boom d'élèves de naissance n'a pas été anticipé.
Il y a 40 000 jeunes supplémentaires qui arrivent à cause du baby boom de l'an 2000.
Et donc voilà, on savait, on était au courant que ces gamins-là, ils arrivaient, en fait.
Et on réduit les postes.
Et il y a une volonté claire. Ça a été posté le 30 juin 2018, je crois, dans un document, que la classe de professeurs actuels, elle doit dégager, et qu'on va avoir une classe de contractuels, donc corvéables à merci, des gens qui n'auront rien à dire, qui pourront rien dire pour les élèves, qui pourront jamais avoir le luxe de pouvoir faire un petit jeu de cartes pour parler aux parents, pour communiquer en disant « voilà, cette carte-là, vous ne pourrez pas la jouer ici ». Nous, pour l'instant, on ne sait pas encore quoi faire, mais voilà, sachez-le. Au niveau un point concret, par exemple, au niveau des sorties scolaires ou des voyages pour des sorties plus longues, en tant que prof d'anglais, moi j'adorerais pouvoir organiser des choses où on va parler anglais, tout ça.
Et je ne serait-ce que les emmener à Londres, par exemple.
Et c'est assez complexe. J'ai discuté un peu avec des collègues ou des gens qui ont grandi dans des quartiers un peu plus favorisés. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont parlé de leur voyage au Japon au collège, quoi.
Il y a un cas aussi qui est la question des absences des professeurs. Si demain vous êtes absent 3 semaines, par exemple, dans une période de préparation de bac, est-ce que vous serez remplacé et est-ce que vous serez remplacé aussi facilement que si c'était à Janson de Sailly, par exemple, à Paris ?
Je pense pas. J'ai pas de chiffres sous la main, mais non, je pense pas. Parce qu'on le voit qu'il y a des gamins qui arrivent au lycée et qui vont nous dire, bon, ben voilà, j'ai pas eu anglais pendant 2 ans, 1 an, parce que prof absent non remplacé.
Ouais, ben ça pose aussi la question sur le, enfin, toutes les questions des profs non remplacés dans les quartiers populaires et de la précarisation du métier aussi dans les quartiers populaires. Ça renvoie à une question de fond qui est la question de la considération du métier d'enseignant. Parce que si on est dans cette situation-là, c'est aussi parce que structurellement, en fait, les quartiers classés anciennement ZEP, PREP plus, etc., n'attirent pas, en fait. Il faut quand même le dire très clairement. C'est-à-dire que quand vous êtes enseignant, il y a un système de points, etc. Et donc, en gros, ce sont des choix de dernier recours. Donc, ce sont
de débutants aussi.
De débutants, parce qu'en fait, on a peu de points quand on est débutant.
Enfin, c'est pas par défaut.
Donc, non, mais ça, c'est beaucoup plus large. La question des questions populaires, des quartiers populaires de manière générale, ça renvoie à l'image, en fait, qu'on a de ces quartiers, des personnes qui sont extérieures à ces quartiers. La majeure partie des entrants enseignants, ne proviennent pas de quartiers. Donc, ils viennent un petit peu à reculons, il faut le dire. Et donc, pourquoi ils viennent à reculons aussi? Parce que la mission d'enseignant dans ces quartiers, elle est pas valorisée. Elle est pas valorisée par rapport au salaire. Elle est pas valorisée par rapport à la question des déplacements, des mobilités. Et puis, l'idée que, au fond, enseigner aux jeunes qui ont le moins, c'est pas une tâche noble. Or, on pourrait quand même revenir un petit peu au fondement de la promesse républicaine, la noblesse de la tâche, elle est là, en fait, au fond. Mais ça passe par la question de la considération. Et je pense aussi que si les enseignants étaient plus considérés et l'enseignement dans les quartiers populaires était plus considéré, bien on aurait d'autres types d'enseignants qui viendraient aussi à ce métier-là, il faut le dire, et on y viendrait différemment.
Ça veut dire par exemple qu'il y a moins de professeurs agrégés dans les lycées, dans les collèges.
Oui, alors par exemple sur la question, on sait très bien que par exemple un enseignant coûte plus cher, par exemple dans le 16e arrondissement qu'à Bondy. Mais pourquoi il coûte plus cher? C'est pas parce qu'on paye plus, c'est parce qu'il y a des effets mécaniques. C'est-à-dire que ce sont des enseignements qui sont, alors un agrégé coûte plus cher que quelqu'un qui a CAPES, et quelqu'un qui a le CAPES coûte plus cher que quelqu'un qui est contractuel. Ce sont des enseignants qui sont plus vieux aussi, la question des points. Donc plus vous êtes vieux, entre guillemets,
plus votre traitement augmente,
et parce que alors
enfin c'est mécanique,
donc il y a un côté mécanique mais qui renvoie à cette entrée dans le métier et où est-ce qu'on a envie d'aller ou pas, quoi.
Puisqu'on parle d'argent, tant qu'on y est, une question sur les moyens financiers dont on dispose. Est-ce que quand plus papa et maman ont d'argent, pour parler trivialement, plus on a de chances d'avoir le bac? Est-ce qu'il y a des stratégies peut-être liées aux cours particuliers, liées à des prépas privés? Est-ce que ça aussi, ça entre en ligne de compte?
Nous, par exemple, au lycée, on essaie de mettre en place un système d'accompagnement un peu personnalisé parce qu'on sait qu'on a besoin de petits groupes pour avancer, pas que dans les langues. Et donc, on a des collègues qui font du tutorat, qui vont suivre un élève, deux élèves, plusieurs, pendant toutes les semaines, soit pour un point, quelque chose de ponctuel, soit aux plusieurs années. Et c'est quelque chose qui pourrait ne pas continuer, parce qu'en fait, il faut des sous pour ça.
Et ça compense un vrai manque. Vous voyez que vos élèves en ont besoin, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas forcément à la maison. Parfois, c'est une question de place aussi. Enfin, Faiza, tu as aussi travaillé sur ces questions, mais parfois, à la maison, il n'y a pas de place. On est 4, 5 frères et sœurs, il n'y a pas l'endroit, il n'y a pas la sérénité, il n'y a pas le bureau.
Il n'y a pas de référent aussi. Il n'y a pas de possibilité de dire « Ah ben tiens, j'ai un problème pour comprendre l'exercice de maths. Papa, aide-moi. » Quand on a des parents qui ne maîtrisent pas forcément le système scolaire ou qui travaillent, qui ont des horaires décalés, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est aussi là le... Et puis, il y a cette question de la disponibilité d'esprit. Quand vous avez la pauvreté des jeunes, c'est quelque chose qui a un impact. J'imagine que vous avez des jeunes, peut-être, qui travaillent déjà parallèle, qui n'ont pas la disponibilité d'esprit.
Voilà, ni physiquement, parce que c'est bien mignon de proposer un tutorat. Moi, j'ai un emploi du temps, mes élèves ont des emplois du temps, les élèves ont des emplois du temps. Là, par exemple, je sais que j'ai 2-3 guerrières et guerriers qui ont accepté de venir le mardi à 18h pour me voir jusqu'à 19h. Mais après, l'élève qui fait un 8h-18h, je ne peux pas lui jeter la pierre si il ou elle n'a pas envie de venir me voir pour un tutorat.
Ou qu'il a un babysitting.
Ou
qui travaille au fast-food.
Ou qui doit partir à l'aéroport pour aller vendre des trucs dans les boutiques du duty-free. Donc je ne peux pas non plus... Je reprends sur ce que vous disiez par rapport au coût. Il y a aussi le coût de la formation. On n'est pas formé, en fait. On est peu formé. Par exemple, devenir professeur, moi, un des challenges que j'imaginais, c'était de parler à un groupe. et parler à un groupe d'enfants ou d'adolescents ou d'adultes selon là où on allait m'envoyer, on a eu 0 minute de formation en psychologie de l'ado ou en psychologie tout court, même pas... Et du coup, quand on envoie quelqu'un, quand on va dire à bébé prof, tu vas dans le 93, bébé prof se pose beaucoup de questions. Parce que,
et il y a toutes les images d'Épinal qu'il a en tête sur je vais enseigner en Seine-Saint-Denis, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver.
Bébé prof a déjà peur de parler à un groupe, peut-être.
Dans l'absolu, et puis alors avec la crainte et puis effectivement le manque de repères, on a du mal à s'identifier à ses élèves, peut-être qu'on les connaît moins, ce que vous disiez Fabien sur les parcours.
Ouais, là je vais prêcher un peu pour ma paroisse, parce que c'est vrai que très souvent dans la formation on pense à des choses alors, qui sont importantes,
de pédagogie pure,
porter la voix, etc. Mais là je... Ma paroisse de sociologue, il y a quand même une formation en fait sur la sociologie, la sociographie du milieu dans lequel très souvent on arrive et qu'on découvre comme ça par le bas avec beaucoup de bonne volonté, mais la bonne volonté très souvent ça suffit pas et même parfois ça fait perdre du temps. Et donc il y a quand même quelque chose qui est un peu structurel, c'est-à-dire que quand on a des jeunes enseignants qui, pour beaucoup en fait, quand ils sont nommés dans leur premier poste dans un quartier populaire, découvrent en fait l'altérité sociale. Enfin, c'est aussi simple que ça. Eh bien, il y a tout ce qu'on comprend pas et qu'on connaît pas, qui est aussi accentué par le fait qu'en France, on a beaucoup pensé l'école comme un sanctuaire. Hein. C'est-à-dire que l'idée que l'école, elle est coupée en fait de la famille, du quartier. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas.
Et que les débats de société n'entrent pas. Que...
Oui, alors, mais même si je dirais c'est sur les conditions concrètes en fait d'existence des enfants, etc. À vouloir neutraliser les choses aussi, y a plein d'informations hyper importantes qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est vrai que ça semble nécessaire quand même pour tous les néo-entrants d'avoir une formation en sciences sociales, en sociologie, sur quel est le public, quel est le contexte, quel est le cas, ou même des choses très simples. C'est-à-dire que... Quelle est la place de l'établissement dans l'économie morale, symbolique et physique du quartier, par exemple. Très souvent, il y a beaucoup d'enseignants qui peuvent passer 2-3 ans sans comprendre que parfois il y a des choses qui se jouent à ce niveau-là. C'est l'endroit par rapport à tel quartier, tel tour, par rapport à telle autre structure jeunesse.
Des rivalités.
Ouais, on comprend par exemple. Et donc ça, c'est il faut aussi prendre ce temps de formation, de connaître son environnement local,
comprendre les codes des jeunes aussi.
Oui, alors les codes aussi. Alors c'est pas toujours. Parfois, je me méfie quand on dit les codes parce qu'il y a un petit peu cette idée qu'il faudrait forcément connaître les codes entre guillemets ou le contexte de ce qui habite les élèves évidemment. Mais après, le professeur, il est là pour amener autre chose.
Mais comprendre leurs codes sociaux.
Oui, pour tout simplement pour pouvoir interagir, pour pouvoir aller au fond en fait d'une relation pédagogique. Bienveillante au sens de prendre en considération en fait l'autre par rapport à ce qu'il est et pour ce qu'il vit, et c'est à partir de là que vous commencez la pédagogie parce que avant vous travaillez sur des stéréotypes, des représentations, vos propres représentations, et si vous les avez pas explicitées, vous travaillez très souvent à vide. Donc ça c'est et ça pour toutes les questions d'orientation, c'est fondamental.
Une dernière question à tous les deux sur l'après, finalement, une fois qu'on a le bac, donc le diplôme c'est le même, tu parlais Faiza de ce diplôme un peu sanctuarisé. Le diplôme, c'est le même. Après, comment on le valorise ? Est-ce qu'on le valorise de la même façon ? Est-ce qu'on l'utilise de la même façon ? Vous êtes professeur, Fabien, à l'université. Est-ce que quand on a le bac à Bondy, on réussit de la même façon dans les études supérieures que quand on a le bac dans un prestigieux lycée parisien ?
Je vais faire comme au début, oui et non. non, au sens où, voilà, enfin, moi j'ai suivi beaucoup de jeunes au long cours, donc justement pour pouvoir voir comment ces parcours en fait se faisaient dans le temps long. Et s'il y a bien une épreuve qui est commune à tous ces jeunes, et je parle vraiment de jeunes qui ont eu des bacs et qui mentionnent très bien, à des jeunes qui ont passé le bac 3 ou 4 fois et qui l'ont eu à 10,00, c'est la phase de, une fois qu'on a franchi le mur du lycée, le stigmate. Et ça c'est la ségrégation sociale, territoriale et scolaire qui fait que, en gros, aujourd'hui, la rencontre avec l'altérité sociale pour les jeunes de milieu populaire, ça se fait après le lycée. Dans les années 90, le brassage, il se faisait plutôt au lycée. Maintenant, c'est après. Et pour ces jeunes, justement, qui ont eu le bac, qui ont l'impression de s'en sortir, en fait, quand commencent les études supérieures, ils commencent pour la première fois, pour beaucoup d'entre eux, à être envoyés avec une image négative d'eux-mêmes. Et la plupart de ces bons élèves, entre guillemets, n'ont pas été préparés, en fait.
Parce qu'ils étaient les bons élèves d'un lycée,
voilà, et puis... Et du coup, il se joue la question de la honte sociale, qui est très très forte.
Ça nous renvoie, en fait, notre manque de culture, notre manque de...
Oui, votre manque de...
Parfois,
tout, entre guillemets, voilà. Par rapport... Mais c'est des questions des ajustements. Alors,
le caractère anomalie statistique.
Oui, et puis le fait d'être désajusté, tout simplement. Désajusté avec tous les petits codes qui font que pour tel étudiant, ça va à peu près rouler et que pour un autre, rien n'est évident, en fait.
Et parfois, on arrive... Pardon, je vous coupe, mais je suis arrivé en classe préparatoire, par exemple, avec des lycéens qui avaient... Enfin, des étudiants qui avaient le même bac que moi. Et on se rend compte qu'ils ont fait un programme et demi, qu'ils sont déjà allés plus loin, qu'ils ont avancé. Et que nous, finalement, on a fait tout juste le programme et encore, c'était ric-rac. Est-ce qu'il y a ça aussi dans le fait que... Finalement, on l'apprend à un moment, on prend cette réalité en pleine face.
Oui,
à un moment
oui,
ou un autre,
tout à fait. On avait l'impression d'être le meilleur chez soi et puis d'être le plus nul là-bas. Ouais. Mais alors, en même temps, faut relativiser ça parce que donc il y a cette difficulté qui est très forte et très souvent c'est assez récurrent. C'est une ou deux années, très très dur dans la vie de ces jeunes. Et puis après, on voit qu'il y a aussi il y a plein de façons de faire face. Donc je détaille pas, mais
il y a un ajustement.
Il y a un ajustement qui se fait globalement, mais au prix de beaucoup de souffrance.
Que dit une des filles de votre documentaire en disant ces deux années de classe préparatoire, vous mettez votre vie de côté et vous travaillez très très fort.
Oui, alors derrière le travail, qu'est-ce qu'il y a aussi? C'est pas que le travail justement, c'est aussi apprendre à s'autoriser que voilà, on a sa place ici, qu'on est légitime. Et là, on voit que, et ça se fait, mais ça prend souvent du temps et c'est difficile. C'est parce que c'est toujours la question de la trahison. En fait. Est-ce que, en fait, en gros, si je réussis là-bas, est-ce que je suis pas en train de trahir les miens? Ce qui est très très fort, puisque je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un mandat collectif, qu'on représente aussi les siens. Et dès l'instant où on commence à faire ce que j'appelle la bascule, c'est-à-dire qu'au moment où on arrive à comprendre que voilà, on peut apprendre des codes
sans trahir sa classe,
mais qu'on peut aussi dire à un moment donné que je suis de banlieue, je suis musulman, je suis ou je fais telle ou telle chose, ou parfois le week-end je vais dans tel ou tel endroit. Là, à ce moment-là, ça devient très très habilitant. Et de fait, on voit bien aussi que toutes les institutions dans les études supérieures commencent à s'en rendre compte, parce que de plus en plus il y a ce discours, alors qui est parfois aussi très démagogique, hein, sur la diversité, de dire
avec tous ces dispositifs spéciaux,
oui, mais de dire aussi les jeunes de quartier arrivent avec leur énergie ou leur
bon rage de vaincre,
voilà. Oui, parfois c'est un petit peu caricatural aussi,
la méritocratie portée à son paroxysme. Et vous, Chatran, est-ce que vos élèves c'est vraiment la dernière question, est-ce que vos élèves, cette dimension justement des difficultés de l'après, est-ce que c'est quelque chose qu'ils envisagent?
Il y a Parcoursup, oui. J'imagine. Enfin, c'est la première.
Nous, on essaie de leur donner quand même. On ne veut pas les endormir jusqu'au bac et qu'après, ils se cassent la figure en découvrant que le monde n'était pas prêt pour eux ou qu'eux n'étaient pas prêts pour le monde. C'est pour ça que ma collègue Mertha, par exemple, faisait ses balades sociologiques pour leur montrer que voilà, vous avez votre place, mais il faudra quand même vous battre pour avoir votre place.
Concrètement, ils arrivent à avoir des affectations, par exemple à Paris. Là, il y a eu les résultats de Parcoursup, en tout cas les premiers tours.
Alors là, pour l'instant, on a quand même un certain nombre d'élèves qui n'ont pas ce qu'ils voulaient ou qui n'ont pas tout court. Après, on n'en est pas à la fin
du processus,
donc je vais pas trop m'engager là-dessus. Mais je vais juste revenir sur le fait que voilà, on essaye quand même à notre niveau de faire ce qu'on peut pour à la fois les ménager et à la fois les préparer. C'est un exercice constant d'équilibriste. Et ce qui est très 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 complexe avec la réforme à venir, parce que là, du coup, on savait que ce serait compliqué pour eux plus tard, mais là, maintenant, ça peut être que pire en fait. On est assis sur une branche, on est en train de la scier. C'est comme pour l'hôpital public. C'est compliqué pour nous d'essayer de leur dire que ça va aller, parce qu'on sait que pour l'instant, ça va pas aller, quoi. Parce que les inégalités s'agrandissent et j'ai envie de leur dire oui, avec ton bac de Bondy, tu vas conquérir le monde, mais pour l'instant, j'ai pas ce luxe, quoi.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Merci Faïza, merci à Dasha Tran et Fabien Truong.
Merci.
Pour cette émission. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Quartier Direct avec Mediapart et le Bondy Blog.